RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show. Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là comme tous les soirs en direct, bien sûr l'After qui démarre un peu plus tard ce soir, mais c'est normal, on a vécu avec passion la fin du match de hand entre l'Allemagne et la France, 25-25 dans ce choc du mondial. Bien sûr tous les matchs des Bleus sont à vivre sur RMC. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec comme tous les mardis, Jérôme Bretagne. Messieurs dames, Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Jérôme, c'est le seul mec qui démarre sa semaine le mardi.
Jérôme is back.
Non, parce que lundi je suis déjà sur Team Duga.
C'est pas l'After. Lundi c'est un échauffement.
Eh oui, mais moi on m'a dit les jours les plus importants où il faut faire l'audience. Et à l'arrivée, on a encore vu les sondages. C'est mardi, mercredi, jeudi. Donc c'est pour ça que j'y suis. Hein.
Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Salut les amis.
Messieurs, l'événement du soir dans l'After, c'est la présence tout à l'heure d'un chercheur au CNRS. Alors, on est comme ça dans l'After.
On
ramène des gars du lourd, quoi. Chercheur au CNRS, le gars. Il s'appelle Luc Arondel. Il s'est penché sur l'argent qui circule dans le foot en répondant de façon très simple, didactique, à des questions que tous les supporters se posent. Par exemple, les clubs de foot sont-ils rentables? Par exemple, quel est l'intérêt de détenir un club de foot? Par exemple, la bière dans les buvettes fait-elle remplir les stades? Voilà des questions. Et Luc viendra répondre tout à l'heure.
La question du livre, t'as amusé, je t'avais annoncé que ça allait te plaire. C'est bien, c'est de façon qu'il a de. Il pose la question comme ça et puis boum, il répond. C'est très bien. C'est
voilà, tout ça dans un livre, l'argent du football, on en parlera tout à l'heure.
CNRS, pour toute ma vie, ça me fera toujours penser à Marc Villalonga dans Un éléphant, ça trompe énormément. Comme Guy Bedos, son fils Simon Messina, la fille qui lui.
Il est chercheur au CNRS.
Il y aura aussi un avis de Jérôme Bretagne. Il veut parler de Thierry Henry et Patrick Vieira ce soir, bien sûr. Daniel, lui, veut parler des nouveaux investisseurs en Ligue 1. Ce sera en lien avec cette thématique sur l'argent du foot, bien sûr. Et puis, ce soir, le retour de nos équipes type et équipes pipe. Et on vous l'avait promis. Oui, ce soir, messieurs, dames, un club de légende, la JOCR.
Bien sûr, ça va être intéressant. Il y a un beau 11 à faire.
Ouais. Alors surtout qu'on a convoqué quand même notre juge ultime, Lucien Denis.
Bah évidemment.
Ah bah oui,
à Lulu.
Lulu, il sera avec nous en direct tout à l'heure pour nous donner son équipe type.
Très franchement.
Son équipe type.
Très franchement. Je pense que quand Lulu parlera, dira quelque chose, on pourra pas vraiment contester.
Ah bah oui.
C'est un peu la Bible serroise.
Son club. Voilà.
Est-ce qu'il va mettre Patrick Devers?
C'est ce que j'allais dire.
On verra. Il y avait deux matchs aujourd'hui, je vous rappelle les scores si vous nous rejoignez. Si vous voulez en parler d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous êtes supporter bordelais ou angevin, 32-16, Bordeaux est allé gagner à Angers tout à l'heure, 2-1, avec un beau but de Caramo d'ailleurs, le deuxième, je ne sais pas si vous l'avez
vu.
Et puis un match dingue en Ligue 2 entre Le Havre et Valenciennes. Le Havre a gagné 4-3 face à Valenciennes tout à l'heure en Ligue 2. Donc là aussi, si vous souhaitez parler de ce match, on vous attend. Le but d'Angers a été marqué par Pavlovic,
joueur pénalty raté.
Joueur qu'on connaît peu, mais finalement qui est. Enfin, qu'on connaît peu. Je veux dire, dont on parle peu.
Ouais,
mais qui marque ses buts, pour un joueur défensif.
On lui demande pas de marquer,
Oui, là, mais il en marque quand même.
Ouais, des buts qui auraient pu être importants. À l'arrivée, ils perdent.
32-16, on vous attend pour tous les sujets sur, bien sûr, notre standard, sur Direct Studio, évidemment, sur l'appli gratuite RMC Sport, vous la téléchargez, vous appuyez sur la petite radio en haut à droite et vous nous envoyez vos messages et puis le hashtag RMC Live sur Twitter si vous êtes sur Twitter. C'est pas obligatoire, Twitter, enfin, si vous y êtes, utilisez-le pour nous envoyer un message. Et puis, l'After Academy qui continue. Il reste quelques jours, alors là on est mardi, il vous reste jusqu'à dimanche.
Mais là il y a quand même un paquet de vidéos.
Pour envoyer votre vidéo, on en a reçu près de 500.
Ah, tiens, on va y passer la nuit, là. Je pensais pas qu'il y en aura autant. Là.
On a commencé déjà à dérocher tout ça. On va en reparler, mais d'abord, Didier Dinard est en direct avec nous, le sélectionneur de l'équipe de France de handball avec Maureen Lehoux après le 25-25 des Bleus face à l'Allemagne. Maureen.
Didier, quel match! Ce nul arraché à la dernière seconde. Une équipe qui fait preuve d'un caractère incroyable. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce match, même s'il n'y a pas la victoire au bout?
Aujourd'hui, même s'il y a eu un match nul, on est passé par toutes les étapes. On a su être serein du début à la fin pour ne pas faire l'erreur de plus. Et on a su faire l'action de plus. Et Je pense que c'est constructeur pour la suite et l'équipe avait vraiment besoin d'un match référence et à ce jour, on a pu le faire. On a pu avoir un Timothée Nguessan qui a été décisif et on en avait besoin aujourd'hui.
Une ambiance hostile du début à la fin, cette équipe fait quand même preuve d'un caractère assez incroyable qui est jeune mais qui répond présent. On a vu les gardiens peut-être un peu moins là aujourd'hui mais c'est d'autres joueurs qui ont pris le relais. C'est tout un groupe là qui se révèle ce soir.
C'est un groupe qui se révèle. On fait les rotations depuis le début de la compétition. Tout le monde est concerné. Les 16 joueurs prennent part au tournoi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir fait ces rotations, que tout le monde se sent impliqué par rapport à ce projet, ça fait qu'on a eu 16 joueurs qui étaient mobilisés pour réaliser cette performance aujourd'hui. Et c'est une très grande satisfaction.
Les nouvelles de Cédric Sorando, le capitaine, qui est sorti très tôt dans ce match, touché au mollet, comment va-t-il ?
Cédric Sorando, semblerait-il qu'il a une élongation. Donc déjà, ça veut dire qu'il a au moins pour 8 jours, donc ça reste compliqué. Mais je ne suis pas médecin. On va déjà attendre le diagnostic du corps médical.
Ça reste un bon résultat pour qui vous attend encore un match contre la Russie jeudi avant d'entamer le tour principal.
Oui, ça reste un bon résultat. Gagner contre le pays hôte, enfin pas gagner, excusez-moi, pour moi c'est un goût de victoire puisqu'on égalise sur le gong. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est très important. Il faut garder et positiver, se dire que maintenant on se projette dans la compétition.
Merci beaucoup Didier Dinard, le sélectionneur qui est en direct sur RMC.
Voilà Didier Dinard en direct. Donc je vous le disais, l'After Academy jusqu'à dimanche, envoyez-nous vos vidéos, vous retrouvez toutes les infos sur rmc.fr hein. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous avez toutes les infos. Et puis comme il nous reste encore des cadeaux toute la semaine, semaine de rentrée, on vous offre des cadeaux. Hier on a fait gagner une enceinte dans l'After. Que se passera-t-il ce soir? On a encore des trucs, on a encore des skateboards, des casques, des téléphones portables, des tablettes. Si vous voulez vous faire plaisir, un petit cadeau du soir, vous envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Voilà.
J'ai une question.
Oui.
Ouais. Improvisé, pas prévu.
Ah.
À propos de ce que vient de dire Dinard.
Dinard, ouais.
Et l'expression match référence, Jérôme. Explique-moi ce concept, parce que évidemment, je le comprends. Mais j'ai mon avis là-dessus et sur ce que ça peut représenter. Dis-moi, pour le sportif de haut niveau, quand on dit match référence, en quoi c'est important? Comment tu le vis? Comment tu identifies le match référence? Et qu'est-ce que ça t'apporte en vrai?
Bon. Ça s'accordait un petit interlude avec l'homme qui a marqué le but de l'égalisation. Timothée Nguessan qui est avec Maureen Lehoux. Maureen.
Eh oui, il est là, Timothée, avec un grand sourire, forcément. Timothée, ce but sur le gong, ça fait quoi?
Bah, content de l'avoir marqué, mais je suis surtout content qu'avec l'équipe, on n'ait rien lâché parce qu'on perd de moins 3. On est en Allemagne et l'ambiance était dure, mais on n'a rien lâché. On s'est battu en défense, en attaque et à la fin, on réussit à avoir ce match nul.
Une ambiance complètement hostile et voilà, dernière minute, vous élevez plus haut que cette défense allemande. Franchement, vous y croyez quand vous avez le ballon, que vous y alliez?
Bien sûr que j'y crois. Mais après, vraiment, c'est le but que j'ai marqué dans le match. Donc, j'ai pas forcément fait mon meilleur match, mais surtout, vraiment, je suis content de l'équipe et je pense que ça va nous apporter par la suite.
Un nul pour l'équipe de France, c'est une bonne projection sur le tour principal qui vous attend, même si bien évidemment la victoire, ça aurait été mieux.
Oui, c'est sûr, c'est vraiment mieux qu'avoir perdu. Là, on est premier de la poule. Après, forcément, il y a encore ce match contre la Russie très important et il va falloir vite se remobiliser, se reposer pour faire un bon match.
Merci beaucoup, Timothée Nguessan, le héros un petit peu de cette rencontre, Gilbert, hein, qui a inscrit ce but de l'égalisation pour la France.
Merci, Maureen. Réponse de Jérôme, donc, sur le match référence.
Écoute, match référence, par expérience, c'est le match qui va te servir pour dans une compétition, n'importe laquelle. Alors là, c'est une compétition qui va assez vite, hein. C'est sur un mois, mais même sur un match de championnat.
Ouais, souvent, on l'entend souvent en championnat, ouais, le match référence.
N'importe quelle compétition, t'as des matchs repères, des matchs qui te servent, des matchs fondateurs, qui te servent pour la suite, pour préparer les autres matchs. Et je pense que lui...
Il te sert à quoi, en fait? Est-ce qu'il te sert à te dire, en gros, à te faire prendre conscience de ce dont tu es capable?
Je pense...
C'est le match où, en gros, toutes les qualités se sont exprimées. Tu dis, ça, c'est... On a été capable de faire ça, donc ça peut te donner de la confiance, et c'est quelque chose que tu dois être capable de reproduire.
Ouais.
C'est un peu l'idée.
Mais collectivement.
Oui, parce que évidemment, dans un sport co, mais dans un sport individuel, t'as également le match référence.
Ouais, mais tu peux avoir, à travers un match référence, t'as divers scénarios, tu peux avoir le match référence grâce aux résultats. qui donne confiance au collectif et tout ça, mais c'est plus là c'est même pas une victoire, c'est un match nul, mais c'est le scénario qui fait que, comme l'a dit le dernier joueur qui a été interviewé là, on n'a rien lâché ensemble, c'est collectivement qu'ils sont revenus dans ce match, ils ont été forts et ils se servent là-dessus pour préparer les autres matchs en disant voilà, il faut qu'on soit sur la même lignée sur les matchs d'après.
Ouais, mais est-ce que c'est pas en gros plutôt le match référence quand tu te cherches encore, parce que si t'enquilles les victoires, t'as pas tellement besoin d'avoir.
Oui, mais Daniel, sur n'importe quelle compétition, même si l'équipe de France est très forte, elle est championne du monde en titre et tout ça, t'as besoin d'avoir d'entrée. Regarde, par exemple, je te prends l'exemple du Paris Saint-Germain sur un championnat. PSG, ils sont champions l'année dernière, ils commencent la saison. Peut-être difficilement.
C'est leur match référence.
Ils gagnent. Non, mais eux, pour eux, alors peut-être qu'ils l'ont pas communiqué, mais pour eux, il y a des matchs déclic.
Ça va être le match Liverpool.
En Ligue des Champions, rappelle-toi, il y a eu des scénarios. Je pense que le match à Naples en Ligue des Champions a été un match référence pour le Paris Saint-Germain, à travers un scénario, à travers un collectif qui a été plus fort que d'habitude, et se servir de ça pour pas retomber dans les travers de.
Le seul truc, et ce pourquoi je te posais la question, c'est que ça peut être à double tranchant. Il faut se méfier de cette expression et du match référence, parce que je l'entends beaucoup dans le sport. Et ça, je t'ai posé la question à toi parce que toi t'as connu le milieu pro, mais c'est la même chose à partir du moment où tu fais de la compète, même en amateur, c'est que match référence, il faut attention à que ça devienne pas un piège et que tu t'enfermes un peu en disant comme j'ai été capable de faire ça et que j'ai ma référence, je crois que trop facilement je peux aller rechercher cette performance là. Il faut pas que ça t'empêche de te remettre en question et de dire mais attends, il faut continuer à super bosser, à rester à haut niveau pour rester dans cette référence là.
Et pour finir là-dessus, le match référence, c'est pas forcément le match que tu dois répéter à chaque fois. Oui. C'est le seuil, il y a un seuil à pas passer en dessous pour réaliser un truc.
Et c'est ça qui est important d'expliquer, parce que j'entends tout le temps au match référence. Attention, parce que c'est faut pas qu'elle existe cette référence et que tu l'atteignes plus après. Ouais, mais il faut tout le temps rester dans cette gamme là en gros.
Mais encore une fois, comme tu as raison, dans un sport collectif, parce que il peut y avoir des matchs références dans un sport individuel aussi. Mais dans un sport collectif, le match référence, ça fait c'est plus lié à collectivement ce qu'on a mis en place pour réaliser un bon match et faire un résultat ensemble, plus que des exploits individuels qui arrivent forcément sur chacun des matchs de hand, de foot ou ailleurs.
Enchaînons tout de suite avec le premier avis du soir, celui de Jérôme Rotten, messieurs dames, jingle Rotten.
T'as pris du retard en maquillage.
Eh ouais, écoute, là, mais à me maquiller, je suis prêt pour aller au Bois de Boulogne. Celle-là, c'était heureusement qu'elle est plus là parce que.
Fais gaffe, hein. Non, elle t'écoute, hein.
Non, elle est plus là. Ah oui, ils écoutent certainement.
Ah oui. Notre équipe de maquilleuses de choc. Alors attention, Jérôme, tu veux parler de Thierry Henry et de Patrick Vieira. Oui, parce qu'on est maquillé pour la radio. Hein. C'est normal aussi à la télé.
Ouais.
Genre, attends, t'anticipes sur le match de demain, toi.
Écoute, c'était l'occasion de. Alors, on aurait pu l'avoir avant, hein, ce choc, mais c'était mieux d'avoir quelques matchs en plus. Et grâce au gilet jaune, on a le droit à un choc entre Henry et Vieira, avec un peu plus de poids pour argumenter sur ce que apportait Thierry Henry, ce qu'apporte Patrick Vieira. Moi, c'est plus le. Alors, je sais plus comment il l'a tourné. Ouais, en fait, ce qui me dérange, c'est souvent les entraîneurs quand ils débutent comme ça. C'est pas le cas de Patrick Vieira parce qu'il a fait 3 ans aux États-Unis. Donc, mais quand ils arrivent en France, dans n'importe quel club, pour moi, c'est encore un tremplin. Un tremplin, c'est-à-dire qu'il continue l'apprentissage. Alors Thierry Henry, il débute, mais Patrick Vieira continue à passer les paliers. Alors il a commencé aux États-Unis, il arrive à Nice, et que leur objectif à l'arrivée, très clairement, parce que ils connaissent le contexte du football français, de la plupart des clubs de Ligue 1, et que pour la plupart, c'est juste continuer les gammes, et puis se barrer à l'étranger dans les grands clubs, parce que c'est là qu'on va faire d'eux des grands entraîneurs ou pas, tu vois. Et moi, j'ai envie que ça change déjà dans l'état d'esprit des dirigeants, et ça revient à ce que.
Ouais. Juste, je coupe là, à ce niveau de la, si demain, je sais pas moi, Vieira ou Henry finissent, bon, cette saison, c'est mal barré pour l'un et l'autre, mais s'ils finissent, par exemple, la saison prochaine sur le podium de la Ligue 1 avec Nice ou Monaco, j'estime que ce sera quand même un aboutissement.
Non, parce que, comment ces clubs-là, ils seront forcément contactés par d'autres clubs plus importants qui ont un côté financier,
moyen, ouais.
Voilà. Et comment tu peux garder un entraîneur qui est convoité par des grands clubs européens ou même en France le Paris Saint-Germain, parce que il y a Paris et les autres grands clubs européens. En France, il y a aucun club qui peut, après avoir réussi des bonnes choses, ça soit à Monaco pour Thierry Henry, je lui souhaite, ou Patrick Vieira à Nice, dire bon bah nous on va prendre un des deux parce que il va nous faire passer un cap. Il y a que le Paris Saint-Germain qui part dans cette optique là et à l'arrivée, donc ça montre que les ambitions de ces deux joueurs, du moins de ces deux coachs là, c'est très clair, ils continuent, surtout quand tu connais la stratégie, et ça se traduit avec ce qu'on voit depuis le début.
En fait, finalement, ça te dérange que la Ligue 1 soit un tremplin?
Non, c'est que à travers les arrivées, on a de la chance d'avoir des nouvelles têtes. Moi, je suis content de voir Patrick Vieira, Thierry Henry, voir ce qu'ils vont amener au football français, essayer de faire passer un cap à ce football français qui, on le disait encore dernièrement avec Daniel, et Daniel le dit depuis plus longtemps que moi, mais moi, je le sens là, le football français va pas très bien en club, le football de club. Ces deux joueurs-là, du moins ces deux coachs-là, peuvent te permettre de changer les choses, mais il faut que à travers ces deux venus et ces deux jeunes entraîneurs, on a des dirigeants qui, au bout d'un moment, prennent conscience que on a deux stars là en tant qu'entraîneur, deux champions du monde, et que avec ces coachs là, alors je sais pas ce qu'ils vont devenir, parce que aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais la comparaison, elle est bien, mais il y a quand même un qui est en avance par rapport à l'autre. Patrick Vieira, par rapport à son expérience déjà, parce qu'aux États-Unis ça lui a servi, mais même ce qu'il a voulu mettre en place, et pourtant on peut te dire ouais, mais c'est deux clubs différents, c'est peut-être plus simple pour Patrick Vieira, on attend peut-être moins de choses à Nice en termes de résultats que à Monaco avec les moyens de Monaco, mais à l'arrivée c'est similaire, parce que c'est
donc beaucoup, je résume, tu estimes que la Ligue 1 ne doit pas être juste un tremplin pour Vieira et Henry.
Il faut que ça change. Mais moi, je leur en veux pas. Hein, si tu veux, ça me paraît logique. Quand t'es un joueur de football, que tu débutes en Ligue 1 dans un petit club, t'as pas envie d'y rester à vie. T'as envie de connaître le très haut niveau, c'est-à-dire avec des champions. Là, ça commence à changer, parce qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs de Ligue 1, ils partent pas forcément à l'étranger. Ils partent aussi, ils peuvent partir au Paris Saint-Germain. Ça s'est vu avec Kylian Mbappé. Donc ça, c'est bien, ça a changé. Mais il y a qu'un club qui peut faire changer les choses.
Daniel, est-ce que t'es d'accord avec Jérôme?
Je suis d'accord, je comprends ce qu'il dit, mais je vois pas tellement comment ça pourra être autrement, parce que si vraiment ils veulent se lancer dans cette carrière, et évidemment c'est une question sans point d'interrogation, une fausse question, parce que évidemment à partir du moment où ils y sont là, ils veulent le faire, ils veulent devenir entraîneur. C'est comme si, en gros, dans ton avis, t'avais réclamé Zidane n'a pas de club, s'il revenait en Ligue 1, ça serait bien. Bah, évidemment, j'aurais été également d'accord avec toi. Mais quel est le club aujourd'hui qui va pouvoir donner une matière aussi bien à Vieira, Henry, que Zidane, et qu'en gros, à notre génération de champions qui devraient être appelés à venir sur le banc pour prendre la relève de ces vieux entraîneurs qui sont en train de passer la main? Guy Lacombe qui a refusé Dijon, Girard qui n'est plus tellement réclamé, qui on a encore, enfin bref, vous m'avez compris, toute cette génération là qui est en train de passer la main. Les nouveaux en fait qui arrivent sont plutôt, s'ils ont été anciens joueurs, des anciens joueurs pas très médiatiques, ou des mecs peu connus, qui n'ont même pas été joueurs, enfin genre le ouais, fils de Guy Stéphane, ouais. Ou bon là Dalloglio est parti, mais Comboiré, qui va tourner en Ligue 1 pendant encore un petit bout de temps maintenant, Montagny à Lens s'il remonte, voilà, ce genre de profil-là. Mais nos vedettes, qui auraient pu prendre des bancs et tout, malheureusement, notre Ligue 1 va pas pouvoir leur proposer. Alors, si Henry et Vieira n'ont pas d'offres à l'étranger, eh ben ok, on les gardera en Ligue 1. Mais s'il y a des offres, c'est comme tu disais, c'est comme un joueur. À partir du moment où il peut aller là où il y a plus de jeux, plus de passion, plus d'oseille aussi, et plus de moyens, eh ben évidemment qu'il ira. Et là, en revanche, je te rejoins, et d'ailleurs, ça va rejoindre mon avis de tout à l'heure, mais si tu t'offres pas des bons projets, si t'offres pas des belles histoires, que veux-tu que les mecs restent foutre ici?
Non, mais c'est pour moi, la benzine,
aujourd'hui, franchement, à sa place, mais je suis effondré de ce qui est en train de se passer à Nice. Effondré.
Bonsoir, Zine.
Bonsoir.
Salut Zine.
Ça va?
Ça va et vous?
Ça va. Bon, d'accord avec Jérôme ou pas?
Zine,
toi qui es supporter de Monaco.
D'accord avec Jérôme, non, pas trop en fait. Même si je vois deux profils qui sont différents au niveau entre Vieira et Henry, il y a quand même un ultra ambitieux, c'est plutôt Henry. Vieira, je le trouve un petit peu plus... je pense que s'il avait commencé dans un club comme Monaco en France ou Lyon, je vois Vieira s'inscrire dans la durée dans un de ces deux clubs-là. Maintenant... Henry, c'est clair, c'est net. De toute façon, il s'en cache pas, il s'en est jamais caché. C'est un mec qui veut marquer l'histoire en tant que joueur et qui voudra marquer l'histoire en tant qu'entraîneur. Et pour ce faire, il sera obligé d'aller chercher et de se servir de Monaco comme un tremplin. Comme il l'a fait en tant que joueur, il le fera comme en tant qu'entraîneur et il ira rapidement aller à l'étranger, peut-être dans 2-3 ans, pour continuer à gagner des titres, chose qu'il ne pourra pas faire à Monaco. Parce qu'il y a une telle différence de niveau entre Paris et les autres clubs.
Mais pardon,
français.
Mais s'il se plante à Monaco, il fait quoi?
C'est vrai ça. Le problème du rôle d'entraîneur.
S'il descend, par exemple.
Mon vieux, le problème, c'est que le joueur, il peut briller à l'intérieur d'un collectif et se faire remarquer et partir, échouer une première fois et revenir. Mais les postes d'entraîneur, bon, t'en as qu'un par équipe. Des gros clubs, t'en as pas beaucoup, même à l'étranger, c'est une poignée. Pour Henry, mine de rien, il y aura pas non plus. Un milliard de possibilités.
Non,
hein.
Si ça se passe pas très bien à Monaco, il prend une claque, ça c'est sûr, mais ça sera pas définitif. Je suis sûr de Thierry Henry à Monaco, il arrivera à rebondir parce qu'il a cette image aujourd'hui. Peut-être que les gens diront, le projet. Non, ouais, mais même en descendant, parce que le projet Monégas fait que ils se sont trompés sur toute la ligne en début de saison, dans le recrutement et tout ça, que ce projet, il était très fragile et qu'avec Jardim, c'était des miracles déjà que Jardim arrivait à réaliser et que aujourd'hui.
Il y aura pas mille possibilités, il va avoir quoi, un petit club anglais
qui
va l'appeler?
Non.
Un Everton, un Watford.
C'est sûr qu'il signera pas à Tottenham ou à Manchester United.
Pas tout de suite, parce que là, les gros clubs tournent avec peu les mêmes. Alors, tu peux éventuellement miser sur l'échec d'Emery Arsenal. Ça libère cette place-là. Mais est-ce que le club fera appel à Thierry Henry?
Non, mais c'est...
Si Thierry Henry à Monaco
pour résumer,
a galéré, c'est pas gagné.
Ils voient peut-être la Ligue 1 comme un tremplin. Mais enfin, ils peuvent aussi bien se gameler, si jamais ça foire.
Mais
en fait, le tremplin peut s'avérer glissant, en fait.
C'est très risqué. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis que les deux sont c'est différent. Mais Patrick Vieira, s'il est venu à Nice, à ton avis, c'est quoi? C'est parce que l'ambition. Sinon, il serait resté aux États-Unis.
Évidemment.
Parce qu'aux États-Unis, il était.
Surtout qu'il a vu qu'il aurait pas le poste de numéro 1 à City.
Ah mais oui. Donc il est venu là pour.
Vieira est tout aussi ambitieux qu'Henry. Henry a la réputation, parce qu'en communication c'est différent, parce que Monaco brille plus que Nice, mais t'inquiète qu'il est tout aussi ambitieux.
Merci en tout cas. Dans quelques instants on revient avec l'avis de Daniel qui va parler donc du niveau des investisseurs étrangers dans Ligue 1. Et puis vous savez notre histoire des coups francs là, qu'on voulait faire dans l'after, c'est ce soir. On va vous donner une liste qu'on va vous mettre sur le compte Twitter de l'after dans les minutes qui viennent. Et la question est très simple, quel joueur vous choisiriez pour un coup franc à tirer à la dernière minute du match que vous coachez?
25 mètres en face.
25 mètres
précisien,
en face.
25 pas décalé
mètres
d'un côté ou de l'autre. En
vous
face.
Piochez dans la liste.
Tout ça est très important.
Et on débat ensuite.
Aussi bien la distance
dans
que
un gros quart d'heure.
Très important. 25 mètres.
À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, bien sûr, comme tous les soirs. Jérôme Rotten, Daniel Riolo. Je rappelle que tout à l'heure en Ligue 1, dans un match décalé en raison des Gilets jaunes, Bordeaux a gagné 2-1 à Angers. En Ligue 2, Le Havre a battu Valenciennes 4-3. Et puis handball, France-Allemagne 25-25. C'était le gros choc du jour. Attention, jingle Riolo. Il veut parler des nouveaux investisseurs. Ah, ces nouveaux investisseurs américains et autres qui arrivent. Est-ce qu'il va aimer ça, notre petit Daniel? On va voir.
L'oseille, il aime.
Phénomène Paco.
Je sais pas.
C'est quoi cette histoire? Non, à mon avis.
Paul! Paul, notre réalisateur.
Paul, il y a une erreur, Paul. Paul, on ne comprend rien.
Phénomène Paco!
Ah, je sais pas.
Bon, c'est pas grave. Paul, tu nous expliqueras.
Ouais, laisse tomber. Tu sais, c'est Paul, hein. Paul, des fois, c'est difficile à suivre.
Quand Didier Quillot a pris la tête de la LFP, qu'il en est devenu le directeur général, l'une de ses premières
idées. Avec un certain brio.
Et de ses très bonnes idées, c'était son intention, faire venir, parce qu'il avait, comme tout le monde, il s'était aperçu qu'il y avait peu d'investisseurs dans le foot, en tout cas déjà peu de Français fortunés qui étaient à la tête des clubs de foot. Et comme il voyait que certains voulaient passer la main, il a fait le tour. Il est allé chercher des gens à l'étranger, il s'est baladé un peu partout dans le monde pour que des gens avec de l'argent viennent. C'est pas lui pour le Qatar, clairement, mais il a suivi les dossiers de près avec plus ou moins d'implication dedans, mais Bordeaux, Marseille, il est au courant de ce qui se passe, Nice, et il a suivi ça avec intérêt. Cumulé à son travail pour augmenter les droits télé, et ça, ça a porté ses fruits. Gérard Lopez aussi, il a suivi le dossier, j'avais oublié ce dossier-là. Donc, il pouvait y avoir comme une satisfaction qu'on a partagée avec lui, que j'ai partagée en disant « c'est très bien, puisque de toute façon, il n'y avait plus de mecs prêts à mettre de l'argent dans le foot français, autant aller chercher des mecs qui vont vouloir investir dans notre football ». Le problème, et ça je ne sais pas si lui l'avait anticipé, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis très très inquiet. Pour moi, c'est plus qu'une sonnette d'alarme, ce qui vient, qu'il faut tirer après ce qui s'est passé à Nice. On s'y attendait parce que ça faisait un petit moment qu'on savait que River et Fournier allaient passer la main. Mais là, clairement, on s'est retrouvé en présence de tout ce qu'il peut arriver dans les clubs détenus par des investisseurs ou fonds d'investissement qui sont là avant tout pour la performance économique plus que pour la sportive. Il s'est passé cet été le truc malheureusement attendu, à savoir qu'on s'est chamaillé pour des transferts, que les dirigeants voulaient des joueurs à des postes et qu'on leur a répondu « Non, non, ce qu'il faut prendre, c'est des mecs vendables. » Et là, je pense que River et Fournier ont tout compris et se sont dit « C'est fini. » Ils ont accompagné, parce que de toute façon, c'était prévu qu'ils allaient qu'ils partent, hein. Donc ils ont accompagné le changement. Je ne sais pas si c'était prévu qu'ils partent si tôt. En tout cas, là, ils ont bien compris que c'était fini, qu'on passait dans quelque chose de nouveau. On en revient un peu à ton thème de tout à l'heure. Que peut faire Vira dans un tel contexte? Ça va être extrêmement compliqué maintenant. Parce que lui ne pourra plus recruter pour renforcer l'équipe, mais devra recruter avec du bankable. C'est-à-dire avec du joueur derrière, ouais. À revendre. À terme, est-ce que, j'en sais rien, Saint-Maximin qui ferait le con machin pourrait être sanctionné? Le propriétaire va lui dire « tu déconnes pas, parce que c'est notre plus grosse valeur marchande, il faut le vendre. Donc mets-le sur le terrain, parce que s'il est capable de dribbler trois mecs et de mettre un but, ça fera le tour des télés, et il garde sa valeur, et en tout cas il n'en perd pas, parce qu'il a pas fait ci, il a pas fait ça. » Ça c'est pour Nice. Pour Sochaux, on met de côté, c'est coulé. Pour Lille, c'est ce qui n'apparaît pas comme le risque le plus gros, parce que les performances sont bonnes cette année. Ça c'est ce que j'appelle le leurre. C'est très bien, ça marche. On vend. Alors, si Campos bosse bien, il va renforcer avec 2-3 mecs, il va acheter 2-3 millions et qui en refera vendre. Mais de la même façon, il faut pas que les supporters lillois se leurrent de quoi que ce soit. Derrière, il peut pas y avoir autre chose que la recherche du bénéfice, ouais, et pas de la performance sportive qui peut être juste un phénomène de cette année. Parce que quand on aura enlevé 2-3 joueurs, l'année prochaine, tu continueras ton trading, mais il n'y a aucune garantie que le résultat perdure. Bordeaux, alors là, je pense que on sera au sommet du trading. Là, clairement, ça a été annoncé. Il y a aucun espoir.
Mais il y aura plus de clubs buvettes.
Effectivement. Monaco me revient souvent dans la tronche quand je dis ça, parce qu'on me dit ouais, mais non, mais regarde, à Monaco, ça a pu permettre de. C'est pas exactement la même chose, Monaco. Et si demain un investisseur, d'abord on parle pas de fonds d'investissement, mais là en l'occurrence c'est un investisseur, c'est pas la même chose que les fonds d'investissement où on sait pas où est l'argent et tout, comme à Bordeaux ou comme à Lille où il doit déjà de l'argent partout et les mecs en fait s'ils ont pas retiré leur bille, c'est dans l'espoir d'en retrouver une partie tellement ils en avaient déjà perdu. Ça c'est un gros risque, j'en parlais déjà de l'année dernière. Ça, Monaco, le mec il est quand même venu, il a mis 250 millions sur la table. Je suis pas sûr que quelqu'un parmi dans les autres clubs que j'ai cités pourra le faire. Et quelque part aussi, c'est le problème, et que j'en parlais hier quand je parlais de l'OM, mais c'est ma courte, c'est la même chose, hein. Faut pas rêver, supporter marseillais, je suis désolé, il est pas là, même s'il le dit, la performance sportive, ça va être surtout de pas perdre de l'argent, d'abord, et d'essayer de revendre quand il pourra trouver un bon joueur, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant. Donc on est face à ça.
Ta conclusion?
La conclusion, c'est que je vois dans ce championnat un PSG qui ne pourra pas être touché. Un Lyon, j'en ai pas parlé de Lyon, parce que ça semble être le cas à part. Mais il y a des phrases de Jean-Michel Aulas parfois ces derniers temps qui me font un peu douter. Sa sortie sur la Coupe de la Ligue, la Coupe qui sert à rien, on s'en fout d'avoir perdu. L'important, c'est effectivement d'aller dans la Ligue des Champions, mais à quel niveau de Ligue des Champions et qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Et on continue avec Genesio parce que ça sert à rien de toute façon d'aller prendre un entraîneur renommé parce que lui, ben, avec moi, on suffit à boucler le club, oui, à la deuxième place, à faire briller nos jeunes, ouais, et à les vendre.
L'objectif est pas fini.
On est là, on est également dans cette réflexion-là. Lui aussi a des actionnaires derrière. Lui aussi, il y a 20% de Chinois qui détiennent le club. Lui aussi a des comptes à rendre, quelque part. Donc on est face à toute cette nouvelle mouvance dans notre football. Face aux derniers de ce qui sont les petits entrepreneurs locaux, là, Nantes, oui, Angers, qui bossent bien, mais qui sont dans la même optique. Hein, s'ils peuvent refourguer des joueurs et tout, de toute façon, on n'attend pas d'eux qu'ils dominent le championnat ou qu'ils tirent le championnat vers le haut. Et toi qui disais, ouais, mais toi, t'es pessimiste et machin, ceci, cela. Ce matin, je lis l'édito dans France Football. Ils n'étaient pas connus pour être méga pessimistes non plus et voir les choses comme ça. Lis l'édito, lui aussi est un peu pas loin de mon pessimisme à dire que
Jérôme,
la Ligue 1 file un mauvais coton de ce côté-là.
Ton point de vue.
Pourrait devenir. Je rajouterai un truc après, pardon.
Mais en fait, très clairement, moi je l'ai connu déjà quand j'étais joueur au Paris Saint-Germain, quand Colony Capital est arrivé au club.
C'était la même chose. Voilà. Bravo, exactement.
Et moi j'étais arrivé sous Canal quand Colony a pris le club. On a vite compris. Pourtant, ils en ont raconté des belles et des pas mûres. Je suis parti à cause de ça parce qu'on m'avait promis des choses et je me suis accroché en restant 5 ans sous l'ère, du moins quasiment 5 ans sous l'ère Colony Capital. Où tu t'aperçois quand t'es dans le club, mais après, là aujourd'hui, tout le monde s'en aperçoit, que ça soit les supporters, les gens du milieu, les gens qui sont amoureux du football, ces investisseurs-là, ils viennent pour ne pas perdre d'argent déjà, pour essayer d'en faire, de gagner de l'argent, et en aucun cas leur priorité, c'est déjà de augmenter le palmarès des clubs sportivement. Qu'est-ce que on peut faire en championnat? Quelle coupe on va gagner? En effet, je rejoins Daniel. Ça m'a choqué et ça n'a jamais été le cas. Mais Jean-Michel Aulas, sa dernière déclaration sur Coupe de la Ligue. Alors, je veux bien qu'il masque un petit peu les choses, mais j'ai pas trouvé ça très clair et c'est pas bon signe pour l'Olympique Lyonnais, surtout un club qui a pas gagné de titres depuis pas mal d'années. Pour les autres, c'est la même chose. À Nice qui arrive, c'est dramatique. Alors, en espérant que River arrive à retrouver une solution, il cherche, c'est ce qu'il nous disait hier dans Team Duga, mais c'est pas sûr. Tout le reste, Sochaux, ça a été plombé. Lille, en effet, ça marche cette année. L'année dernière, c'était catastrophique. Ils étaient au bord de la rupture. Et ça va être de plus en plus comme ça, malheureusement. Et je pense que déjà, les clubs, on le ressent. On le ressent au niveau européen, où on n'a jamais trop existé. Il y a eu en effet des bonnes périodes, des bonnes épopées, mais c'est insuffisant par rapport à ce que le football représente ici en France. Et je pense que ça va être de pire en pire. On retire le Paris Saint-Germain, il y a que le Paris Saint-Germain sur qui on peut compter à long terme parce que les Qataris sont arrivés, ils ont mis beaucoup d'oseille et que eux, en effet, il y a tellement d'argent que leur priorité c'est de développer le football à Paris, de ramener des titres et pourquoi pas une Ligue des Champions. Mais sinon le reste c'est, je pense qu'on va pas dans le bon sens.
Et je vais ajouter.
Après c'est un mouvement global. Hein. Je veux dire c'est pas qu'en France. L'Angleterre a été le premier à prendre ce virage des investisseurs là en vendant les bijoux de famille.
Et le problème. C'est qu'ils sont
donc c'est ouais, moi je suis très nostalgique des présidents Maquignon, les mecs qu'on avait à l'époque là, les Martel, le problème c'est Hamel, que c'est compagnie, mais c'est fini.
Mais attention parce que le problème c'est qu'en Angleterre sont les plus riches ils sont allés, ouais, ont acheté les clubs chers. Aujourd'hui ce sont des clubs qui sont valorisés, qui valent des fortunes. Nous on a récupéré simplement les fonds de tiroir des fonds d'investissement. Là-bas ils sont dans l'optique quand même. Bon, c'est vrai que, mine de rien, il y a aussi quelque chose de dérangeant chez eux. Par exemple, si tu prends l'exemple de Manchester United, grosso modo, c'est quand même le club le plus riche du monde. Hein. Grosso modo, les propriétaires n'ont pas grand-chose à cirer de gagner. Hein.
Bah oui.
Tant qu'ils maintiennent leur position de club le plus riche du monde et de diffuser le match pour que ce soit visible sur le continent asiatique, pour eux c'est bon. Et on a vu la même chose avec Arsenal.
Tout le décalage entre les supporters qui veulent de la passion et
sur ces dernières années, Arsenal, c'était la même chose quand les propriétaires disaient tant que Wenger nous met en Ligue des Champions, on est bien, on n'a pas besoin de gagner de titres. Mais je vais terminer sur un point important que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que bon, évidemment, cette politique économique qui va être basée sur le trading de joueurs en France, ça va faire que en gros, d'ailleurs, c'est ce qu'on est devenu, une sorte de centre de formation pour l'Europe. On est en Europe le premier exportateur de joueurs, le deuxième dans le monde.
Bon, ça joue souvent été le cas. Hein.
Franchement, alors ça pourrait paraître un peu science-fiction, mais tu peux très bien envisager demain que dans certains clubs, on engage des mecs qui soient béton sur la formation et que tu formes en fonction du championnat dans lequel tu veux vendre. Par exemple, toi, tu deviens le spécialiste de la fabrication du box-to-box parce que tu sais que tu vas pouvoir vendre dans tel et tel club en Angleterre, les clubs classés entre 5 et 10 qui ont besoin de ce genre de joueurs-là. Tu peux très bien en arriver à cette réflexion complètement entrepreneuriale de tiens, on va fabriquer tel type de joueur pour tel club et tel championnat. C'est un peu ce qui est en train de devenir le foot, mine de rien, et surtout chez nous en France. Et ça, je trouve qu'on est, on le dit pas assez, on est quand même à un virage assez inquiétant.
La vérité, c'est que il faudrait qu'on consacre un after, au moins une heure d'after à ce sujet avec un spécialiste un jour qui vienne nous expliquer. On va le faire un peu tout à l'heure, mais qui vienne clairement parler de tout ce qui est processus de reprise, de revente, etc. Et puis que les supporters puissent avoir la parole aussi, parce que il y a un décalage complet entre ce que vivent les supporters qui eux sont là pour se faire plaisir, pour que leur équipe gagne, pour gagner le championnat, la coupe, machin. Ouais. Et puis ces investisseurs qui, comme l'a dit Daniel, gagner finalement. S'en foutent, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit rentable. On en reparlera, bien sûr, c'est un sujet important. Mais tout de suite, on va aborder un truc un peu plus léger. Et les propositions tombent déjà. 90e minute de jeu, finale de la Ligue des Champions, 0-0, coup franc pour ton équipe à 25 mètres de but adverse dans l'axe. Quel tireur est-ce que tu choisis? La liste tombe dans quelques instants. Elle est déjà sur le hashtag RMC Live et sur le Facebook de l'After. Réponse, votre réponse dans quelques instants dans l'After.
RMC Football Show. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne, Daniel Riolo. Et un petit jeu dans l'after, on a envie de se faire plaisir des fois. Puis on aime bien, on fait tout ça entre potes, comme ça, à la machine à café ou ailleurs. Je vous donne le cas, et vous le retrouvez sur le hashtag RMC Live, sur le Facebook de l'after. Et tiens, le cas, on va le soumettre d'abord à Thomas, qui est avec nous au 32-16. Salut Thomas.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Thomas, salut Thomas. C'est très simple, t'es coach. 90e minute de jeu, finale de la Ligue des Champions, il y a 0-0. Tu as un coup franc à 25 mètres du but adverse dans l'axe. Je dis bien 25 mètres, hein, et pas 17. 25 mètres.
Ouais, j'ai bien compris.
Quel tireur choisis-tu? Attention, j'ai une petite liste. On a mis Messi, on a mis Cristiano, on a mis Ronaldinho, on a mis Rivaldo, on a mis Zidane, Pirlo, Lienard, bien sûr, c'est moi qui l'ai imposé.
Ouais, bien sûr.
Beckham, Del Piero. Jérôme Rotten, Figo, Mihailovic, Platini, Roberto Carlos, Zico, Hadji, Maradona, Baggio. Attends, toi, l'ouverture d'éventail est très très large. Tu choisis qui, Thomas?
Ouais, je crois que je sais pas si tu l'as cité, mais sans hésiter, en numéro 1, Sinisa Mihailovic.
Ah, Mihailovic qui a marqué un certain nombre de coups francs en Italie, en effet, quand il était joueur.
À l'étoile rouge.
Et à cette distance, parce que là, c'est vrai que Mihailovic était un spécialiste des coups francs lointains.
Bah 25 mètres, c'est loin hein, quand même. C'est pas un coup franc juste une feuille morte comme Platini pouvait faire, même s'il est capable.
Platini mettait à 25.
Non,
aussi.
Non, mais bien sûr, c'est ce que je te dis. Mais il avait plus de qualité dans le pied,
c'est un gros pied. Il le faisait sans élan et tout.
Voilà, exactement.
Mihailovic, il a mis un jour 3 coups francs dans le même match.
Ouais, Mihailovic était un super tireur de coups francs, mais un peu plus décalé pour son pied gauche, plus que pile dans l'axe.
Pile dans l'axe, tu veux que je te dise avec toute cette liste là.
Pile dans l'axe, moi je vais donner mes 3 moi. Vas-y.
Bah moi je vais te donner pour moi le numéro 1 sur les dernières années là parce que je l'ai vécu c'est Juninho. À 25
ouais,
mètres.
C'est ce que j'aurais dit
à 25
aussi.
Mètres dans l'axe, franchement, ouais. C'est presque un penalty pour lui. C'était surcadré à chaque fois, il avait une la qualité, bah vous vous souvenez hein, de lober le mur et qui a replongé, qui a pris une vitesse incroyable. Ça franchement, pour n'importe quel gardien, c'est très compliqué.
Et Daniel, tu dis quoi, toi?
Moi, mon trio, c'est il y avait Juninho, mais alors 25 mètres précisément, mais en face, Beckham était imparable. Mais quand même, un pied où, en face surtout, il pouvait la mettre côté droit, côté gauche. Beckham vraiment bien.
Surtout sur sa, moi je me souviens de sa prise d'élan qui était très longue.
Ouais, pour, ouais. Beckham en face, on a quelques images qui passent là et tout. Moi je mets Beckham, je mets Juninho et je mets Pirlo dans mon trio. À 25.
Alors, en revanche, il y en a
plus près, je mettais Platini les yeux fermés.
Il y en a un qui est dans la liste.
Platini était sur coup franc, c'était un péno aussi. Oui, oui. Faut pas oublier que c'est un nombre de coup francs dingue. Mais Pirlo, Juninho, Beckham. Beckham, le fait que ce soit en face pour Pirlo et pour Beckham, c'est vraiment un avantage.
Alors Juninho est le nom qui revient le plus. Hein. J'ai Thiago, il me dit Juninho, Figo, Beckham. Aziz me dit Juninho, évidemment. Dadoulov me dit Juninho. Pour une fois que Jérôme Rantaine a raison. Voilà. Alors il y en a qui me proposent Bodiger, une proposition de Julien C, un Toulousain, qui décidément n'en perd pas une. Alors par contre, il y en a un dans la liste que je ne ferai jamais tirer. C'est Cristiano.
Ah bah oui.
Cristiano, oui, faut arrêter de le mettre dans les listes de tireurs de coups francs. Il en marque un sur 75, Cristiano.
C'est vrai que les stats sont pas exceptionnels.
Mais il en a mis quelques-uns quand même.
Par contre, à 25 mètres, il a la frappe.
Non,
mais parce que...
Il cadre jamais.
Parce que
décalé côté gauche un peu plus près... Messi, je le mets dedans. Tu mets le gaucher, après faut voir où est placé le ballon. Hein.
Pour caresser le ballon.
Attention, Thomas, t'es supporter Bastier. Finale de Coupe de France, coup franc pour Bastia. Il demande un Bastier. T'as tous les Bastiers de l'histoire là. Tu fais tirer lequel?
Ah bah, il y en a qu'un, Claude Papy.
Ça va pas ou quoi?
Alors écoute, si t'es un vrai supporter bastien, non, mais je vais te dire, parce que si t'es un vrai supporter bastien, rappelle-toi d'un coup franc en Ligue 2 qui nous permet de monter quasiment, hein, parce que on marre à 85e minute, on n'était pas bien, tu vois, 0-0, et un coup franc à 25 mètres, bah ça a fait barre en 30.
Et voilà. Thomas, là, pardon, je crois que tu l'avais
fait. Et j'ai offert le titre de Ligue 2 et la montée au peuple bastiais. Bon, voilà, ils m'en remercieront jamais assez.
Allez, dans quelques instants.
Même Julien C qui t'a soufflé, Bodiger, me souffle Baggio, pas 25 en face. Non. Baggio, un peu plus près et pour les coups francs excentrés.
Enfin, entre Bodiger et Baggio.
Pour droitier.
Parce que 25 mètres, mine
25
de rien,
mètres, c'est quand même une distance. C'est les coups francs qu'on a vu à l'image pour ceux qui nous regardent à la télé. Camille Beckham en face, c'est celui qui met dans un match méga important la qualificatif, c'est quand ça doit être contre l'Allemagne.
Non mais oui.
Il est plus près.
Ta protène coup franc.
Bah, le dernier coup franc. Mais écoute,
très bien.
Le dernier coup franc d'équipe de France.
Là, celui qu'on voit
de
Beckham là, avec Manchester contre le Barça, il est à 25 là. On est d'accord.
Ouais, à peu près.
Celui qui vient de mettre avec Manchester là.
Et je te dis,
Là,
ouais, non, il est plus près là.
Allez, tapez tous protène coup franc. Et on se retrouve dans quelques instants. On va parler de l'argent dans le football avec Luc Arondel.
Celui-là était plus
chercheur au CNRS
contre Marseille.
Il sera avec nous dans la fin dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.